Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un exercice difficile pour moi parce que le président du Césaire et le président du CCE et les commissions du Césaire et du CCE, non, je plaisante, c'est pas grave. Non, mais les deux d'un coup, ça, c'est un exercice que je n'ai jamais fait aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'être là. On avait convenu, en tout cas sur le dossier qui concernait l'illettrisme, mais pas que, de revenir régulièrement vers vous pour les résultats du travail qu'on peut mener, surtout le travail d'étude et d'analyse qui a été effectué avec le cabinet Pollen, qui est représenté aujourd'hui par Raoul Lucas. Quand on a présenté la première étude et les premiers résultats, je vous avais annoncé que la région ferait une seconde étude, donc là qui est en cours de lancement sur illettrisme et handicap, et une assistance maîtrise d'ouvrage qui a donc été lancée l'année dernière sur l'accompagnement de la collectivité sur la stratégie. Sur le développement de sa stratégie régionale de l'économie sociale, pardon, de l'illettrisme. Et donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter le résultat du travail, enfin la méthodologie et le résultat du travail qui a été mené par le cabinet Pollen en sa qualité d'assistant maîtrise d'ouvrage à la collectivité régionale, et pour aussi vous présenter les propositions qui ont été faites, et on pourra ensuite aller sur la discussion ou en tout cas le partage de votre analyse de ce dossier. Je vous remercie. Donc je vais laisser la parole à Raoul dans un premier temps pour faire sa présentation.
Bon. Madame la vice-présidente, messieurs les présidents, et donc mesdames et messieurs, alors mon exposé va s'organiser en deux ou trois temps, et puis j'essaierai de faire un exercice assez synthétique pour insister plutôt sur les propositions, et ensuite, dans un autre temps, participer à mes modestes moyens aux échanges qui auront lieu. Alors, il y a eu une étude sur l'illettrisme. Au sortir de cette étude, il y a eu des préconisations qui ont été faites. Et la région et Madame la vice-présidente a demandé qu'il y ait une assistante à maîtrise d'ouvrage. En clair, pourquoi faire pour regarder très concrètement et de façon très opératoire la mise en œuvre des préconisations qui ont été faites. À ce stade, il y a deux difficultés, qui sont des difficultés qui sont liées à la façon dont cette thématique est traitée dans cette île. Elle est l'objet, sans doute plus qu'ailleurs, d'énormes représentations qui circulent dans tous les sens et qui fait qu'elle est prioritairement l'objet, plutôt d'interventions orales ou de commentaires ou de gloses, vous appelez ça comme vous voulez. La deuxième difficulté découle de la première. Plus on glose, moins on travaille. Et travailler, c'est se mettre autour d'une table ou s'organiser pour essayer de construire ensemble des choses. Et il faut faire un peu le deuil de la parlotte si on veut travailler ensemble. Donc, ces deux difficultés-là, on a essayé de les intégrer, notamment autour de la maîtrise d'ouvrage. Alors, il y a, pour cette maîtrise d'ouvrage, on a mis en place ce qu'on a appelé de façon pédante des séminaires d'analyse réflexive, c'est-à-dire un travail sur une journée avec des gens qui viennent d'institutions différentes et qui ont en commun de traiter le même thème sous des angles et selon des responsabilités différentes. Et ensuite, il y a eu 7 séminaires. Bon, on a retrouvé les quelques difficultés qui étaient présentes. Le contraire eût été surprenant, c'est-à-dire qu'on arrive avec 5 téléphones, 3 ordinateurs, on sort, on rentre, etc. Il faut gérer ça, mais ce n'est pas l'essentiel. Mais ces difficultés-là, je tiens à dire, elles sont présentes parce qu'elles vont avoir des conséquences pour la suite. Alors, les 7 thématiques sont lesquelles ? je les énumère pas toutes, le pilotage, l'orientation, l'accompagnement, la formation des acteurs. À ce stade, parce que je vais à la synthèse et je vais à l'essentiel. Donc, deux caractéristiques particulières. L'une positive, je vais terminer par elle, une plutôt embêtante, pour ne pas dire critique. Celle qui est embêtante, c'est que de toutes les acteurs qui ont été sollicités, qui ont été les mêmes pour une grande part de l'étude, celui, l'acteur institutionnel, qui a sur ses épaules une responsabilité quand même importante dans tout ce processus, qui s'appelle le secteur de l'orientation, vous appelez ça comme vous voulez, ils ont fait défaut. Ils ne sont pas venus. Bon, je passe sur les mails et tout ça, c'est pas important. Ils ne sont pas venus malgré les relances et les demandes insistantes. Or, pour tous ceux qui étaient là, lors de la restitution de l'étude, il y a un problème sur le diagnostic et sur l'accompagnement. Donc, là, il y a une difficulté importante. L'autre difficulté mineure, qui tient toujours d'une certaine manière à l'éducation nationale, qui est que, au sein du comité de pilotage, l'institution est représentée par une inspectrice de l'éducation nationale. Pour ceux qui connaissent bien ce système, il y a 22 circonscriptions, c'est-à-dire 22 inspections primaires au sein de l'Académie de la Réunion. Donc l'inspectrice qui a en charge cette mission, de facto, son prédécesseur fonctionnait de la même manière. Elle considère que cette mission est sans doute moins prioritaire pour elle en regard des activités premières qui sont les siennes et donc elles viennent après les exigences de cette mission. Donc la liaison entre ce qui se faisait au sein de ces séminaires et le reste des secteurs de l'éducation nationale a dû être traité différemment. A été traité par les réseaux, a été traité par des appels en parallèle, etc. Donc, on participait, et là on rentre maintenant dans le positif, on participait des inspecteurs pédagogiques régionaux, hiérarchiquement qui n'est pas de son niveau, qui est au-dessus de cette représentante, ont participé des enseignants, ont participé des conseillers pédagogiques et ont participé des chefs d'établissement, collèges ou lycées. Malheureusement, n'ont pas pu participer des directeurs d'école. Alors, l'autre chose positive, c'est la présence de ce qu'on appelle les acteurs de la lecture publique, c'est-à-dire les représentants des médiathèques et autres responsables administratifs qui, dans les collectivités, ont à gérer ces questions. Un loupé, ça a été la difficulté pour l'impossibilité en dernier moment de l'association des maires de participer à ces travaux. Ils ont été sollicités, ils ont donné leur accord, ils ont été destinataires des documents qui ont été transmis, mais au dernier moment, ils n'ont pas pu participer aux travaux, en raison de calendrier et de charges de travail les concernant. Donc, j'en aurai fini avec la méthodologie en vous disant très concrètement comment ça s'est passé. Donc, on a travaillé sur des thèmes. On a travaillé. On n'a pas fait simplement que gloser. Donc, on a produit des débuts d'outils. On a produit des démarches. On a essayé de traiter un certain nombre de questions. Et le processus qui a été retenu a été le suivant. Dès le moment où quelqu'un participait à une thématique, à un séminaire, il était détenteur des résultats des comptes rendus de tous les autres séminaires. Bon, dans le pédantisme de la pédagogie, ça s'appelle une démarche spiralaire. Donc, pour que, à tout moment, chacun, même s'il n'est pas dans le séminaire, parce qu'il n'est pas concerné par ce séminaire, il peut contribuer à partir du positionnement qui est le sien et de sa responsabilité dans la chaîne hiérarchique, intervenir de son point de vue, de son angle à lui sur ces questions. Donc, ça, c'est très bon. Il y a alors les aspects toujours positifs sur lesquels je souhaitais terminer. Donc, il y a une participation qui a été active, importante. De vos conseils déjà et des autres acteurs qui ont été sollicités, 87 participants au total et avec pour certains d'entre vous et pour certains de ces participants une participation à deux séminaires, trois une seule fois parce que les séminaires étaient croisés pour permettre justement que l'ensemble des thématiques puissent être abordées. Donc j'en ai terminé sur la méthodologie. Je réponds après dans le détail sur les questions éventuelles qui concernent le traitement de cette question méthodologique. Alors, qu'est-ce qui ressort de cela ? C'est d'abord de chercher à répondre à la commande très précise qui nous a été faite, c'est-à-dire donc, pragmatiquement et de façon très opératoire, comment on met en place les préconisations. Donc, on a choisi, alors ce qui résume le résultat, la quintessence de notre travail, si vous préférez, bon, on l'a résumé dans une formule, il faut changer de paradigme, il faut changer de braquet. Changer de paradigme, ça veut dire quoi ? Il faut changer, à minima déjà, le regard sur ces questions, sur cette question. Donc, cette question n'est pas que l'affaire de l'éducation nationale et des enseignants du primaire. Donc, il y a beaucoup d'autres acteurs qui interviennent dans le traitement de cette question. Et on est dans une île tropicale, les érosions sont très fortes, donc si on veut que l'envie et le goût de lire qui conditionnent l'entrée dans un autre monde et qui conditionnent notre développement, il faut l'entretenir. Parce que entre les alizés et les cyclones, on a vite fait de voir des choses partir. Donc, il faut entretenir ce goût de la lecture. Et ce goût de la lecture qu'on va entretenir, eh bien, ne passe pas obligatoirement par des démarches scolaires. Exemple, les cas à lire. Donc, ne passe pas exclusivement par des démarches scolaires. Donc, ça participe de ce qu'on a appelé le changement de paradigme. Ensuite, si on veut... D'abord, s'il faut qu'on fasse le deuil, et ça c'est toujours dans le chemin de regard, des illettrés, il y en aura toujours. Celui qui va aller à la radio tout à l'heure pour dire que lui, il a un plan pour lutter, pour éradiquer l'illettrisme, comme on éradique le cancer ou comme on éradique le diabète, qu'on ne réussit pas d'ailleurs, eh bien, c'est très douteux, sa proposition. Son engagement n'est peut-être pas douteux, mais sa proposition sera douteuse. Il y en aura toujours des illettrés, parce qu'il y a un gap. Il y a un gap entre l'évolution de la société, les exigences de la société, elles se renouvellent, elles augmentent ces exigences, et en regard de la formation de départ des individus. Donc il y a cet élément-là. Il y a ensuite le fait que, eh bien, on désapprend. Donc comment on fait pour enrayer le désapprentissage ? Comment on limite ce désapprentissage ? Donc tout ça participe de ce changement de paradigme. Donc, l'autre élément qui participe de ce changement de paradigme, c'est quoi ? C'est qu'il faut articuler deux choses qui ne sont pas toujours faciles. C'est la prévention. Comment on agit préventivement ? Donc, et comment on donne envie ? Et comment on entretient l'envie ? Et l'autre côté, comment maintenant on inscrit cela, on articule cela avec ce qu'on appelle l'éducation tout le long de la vie. Donc, c'est autour de cette approche que les propositions très concrètes ont été faites. Eh bien, ça veut donc dire quoi ? Pour la déclinaison de ce changement de paradigme, ça veut donc dire... Si on peut éviter la dispersion, même si c'est vrai qu'on croule sous l'argent, ce serait bien, parce que la dispersion des crédits est là, et comment je vais dire, excusez-moi, donc saupoudrer, le saupoudrage des actions ne seront pas productives, même si on croule sous l'argent, et si l'argent pour nous c'est pas un problème. Donc, vaut mieux faire en sorte qu'on arrête les dispersions, on arrête le saupoudrage et qu'on construise autrement ces actions. C'est-à-dire faire travailler ensemble des institutions, différentes catégories d'acteurs. tout ce qui relève de la famille, tout ce qui relève de la lecture publique, tout ce qui relève de la formation initiale, tout ce qui relève de la formation. Et travailler ensemble, comment ? Pas simplement par des discours, pas par des discours. Et c'est là qu'on a proposé que l'axe stratégique, le levier pour s'y prendre, c'est une entrée territorialisée. Il y a dans cette île, et ça tombe bien, 5 communautés de communes. Ces 5 communautés de communes sont isomorphiques, recoupent les 5 bassins de l'éducation nationale. Bon. Les bassins de l'éducation nationale, c'est quoi ? Ce sont les établissements du secondaire, les collèges, les lycées, les circonscriptions autour d'une circonscription. Hein. Donc, justement, dans l'éducation nationale, on les appelait bassins. Faute de mieux, on va se mettre d'accord et retenir ce terme. Donc, ce sont donc des chefs d'établissement, des inspecteurs de l'éducation nationale, du primaire, qui ont rapport avec ces établissements et ces territoires. C'est le conseil général pour partie avec le GUT. Donc, les bassins peuvent être un levier d'entrée. Ensuite, l'autre chose, c'est faire le choix avec la territorialisation de la proximité. Parce qu'il y a dans ces établissements, parce qu'il y a sur ces territoires des dynamiques qui sont différentes. Il y a des associations qui peuvent être plus mobilisées ici ou là. Il y a des chefs d'établissement qui peuvent être plus volontaires ici ou là, des équipes qui produisent. Donc ça, c'est le changement de paradigme. J'y reviens tout à l'heure. La conséquence, et je fais la transition sur le changement de braquet, ça veut dire que le comité de pilotage doit piloter. Donc, il y a dans ce comité de pilotage des gens qui ne sont pas à leur place. Et des gens qu'ils doivent... Je vous parle différemment d'une rencontre institutionnelle, parce que je suppose que là, on est dans une rencontre de travail. Donc, évidemment, après, j'assume les propos que je dis. Donc, au nom du cabinet Pollen, piloter, ça suppose un certain nombre de conditions qui soient réunies. Donc il faut dissocier les fonctions techniques, les fonctions administratives et les fonctions de pilotage. Et faire entrer des gens qui n'y sont pas. L'échelon communal ne peut pas être absent. C'est pas possible. Pas possible. Donc, alors, faire entrer des gens qui n'y sont pas, revoir des gens qui y sont, mais qui ne sont pas calibrés pour être là, qui ne sont pas configurés pour être là. C'est le cas de l'éducation nationale. Soit cette affaire est importante et donc doit siéger au comité de pilotage des personnes au sein de l'éducation nationale qui ont autorité et qui ont légitimité, pas une inspectrice de l'éducation nationale, parce qu'elle va regarder à l'aune de sa circonscription. Et c'est ce qui s'est passé. À l'aune de sa circonscription, tout tourne autour de Saint-André. Bon, elle aurait été inspectrice à Mafate, tout aurait tourné autour de Mafate. Donc, mais ces questions-là dépassent Mafate. Donc, ensuite, intégrer également dans le comité de pilotage, des gens qui ont la responsabilité de la politique et ou de l'animation, de tout ce qui tourne autour de la lecture publique. La BNF, par exemple. Le groupe Réunion BNF, c'est-à-dire dont un illustre président est là, ou un illustre fondateur est autour de la table, et donc qui regroupe les acteurs de la lecture publique à La Réunion et qui réfléchissent et qui mènent des travaux dans ce domaine. Donc, changer de braquet, c'est cela. C'est aussi mettre en place... Le troisième élément, après, il y a à animer cela. Animer en liaison, bien sûr, avec le comité de pilotage et en liaison avec les acteurs de terrain. Et c'est là qu'il a été proposé le recrutement d'un haut chargé de mission, faute de mieux, on l'appelle comme ça pour l'instant, qui soit un polyglotte. C'est-à-dire qui parle la langue de l'éducation nationale, qui est une langue très particulière, que beaucoup d'entre vous ne parlent peut-être pas. Donc, qui parle la langue des acteurs de la formation, parce que eux aussi, ils ont leur langue. qui parlent la langue des administratifs, parce que eux aussi, ils ont leur langue. Donc, il faut que cette personne parle au moins ces trois langues. Alors, donc, à partir de là, ce haut chargé de mission, son rôle sera... quel est le rôle qui a été esquissé pour lui? Bon, c'est d'assister techniquement le comité de pilotage. Et il doit avoir, en plus d'être polyglotte, il doit être reconnu. Il doit être reconnu, il doit avoir une légitimité qui fait qu'on va le prendre au téléphone, qu'on va lui fournir des éléments, des réponses à ses questions, et qu'on ne va pas l'embrouiller avec des phrases fumeuses pour le balader, parce qu'il va connaître le fonctionnement de l'éducation nationale. Il va connaître à qui s'adresser, et il va connaître aussi à qui s'adresser dans les municipalités, à qui s'adresser dans les collectivités. Donc, pour une grande part, effectivement, même si certains peuvent ne pas être d'accord, les fonctionnements des structures dépendent aussi des hommes et dépendent pour une grande part de ceux qui sont à la charge justement de ces pilotes. Hein. Donc assister ce comité de pilotage avec ce haut chargé de mission. Ensuite, il travaillerait avec le comité technique et ferait travailler ensemble, c'est-à-dire produire. Pas parler, pas multiplier les réunions de café autour d'un certain nombre donc de réflexions plus ou moins construites, travailler ensemble sur ces questions. Alors, l'autre chose qui a été demandée sur le plan technique également et sur le plan opératoire, la priorité des priorités, c'est la formation de tous ces personnels qui ont en charge l'orientation. Parce que s'il y a une erreur de diagnostic, rattraper cette erreur de diagnostic, c'est toujours un peu compliqué. C'est un peu compliqué, surtout que cette erreur de diagnostic va venir se rajouter à des parcours qui parfois peuvent être chaotiques. Donc ça en rajoute dans les difficultés pour un certain nombre de publics. Ça nous ramène à l'absence cruelle de l'orientation côté éducation nationale dans cette affaire. Donc, l'une des propositions principales qui a été faite en matière de formation. Ce qui a souvent été discuté, c'est la question des échanges de pratiques et la nécessité d'échanger les pratiques. Très sincèrement, on pense qu'elle n'est pas d'actualité. Non pas qu'elle ne soit pas nécessaire. Elle n'est pas d'actualité parce qu'il faut, faut un certain nombre de conditions et ces conditions-là ne sont pas réunies. Et que ces échanges de pratiques risquent d'être des échanges de parlotte. Eh bien, quitte à faire des échanges de parlotte, on en a suffisamment fait échange de ces parlotte et donc on peut les différer. Hein. Donc, sur les échanges de pratiques. Alors, voilà les principales propositions qui ont été faites. Bon, il y en a d'autres qui sont moins importantes ou mineures par rapport aux échanges qui doivent être produites. Il reste quand même un autre point qui devra voir son fonctionnement et sa charge de travail et ses missions redéfinies, c'est le CARIFOREF. Donc, parce que là, il y a tout un certain nombre, il y a des ajustements qui doivent être, il y a des ajustements qui doivent être faits et il y a sans doute aussi un certain nombre d'interrogations à apporter. Mais on ne s'improvise pas, malheureusement, certains l'apprennent à leurs dépens, on ne s'improvise pas animateur de séminaires de production. Et donc, on revient sur, et c'est pas simplement des affaires de personnes, il n'y a pas d'affaires de personnes dans l'analyse qu'on a essayé de faire et dans les propositions que nous avons pu faire. La légitimité est une question clé. La légitimité est une question clé. Si les personnes qui ont en charge ces productions ne sont pas reconnues comme légitimes, à tort ou à raison, eh bien, ça va coincer. Donc voilà, de façon relativement synthétique, ce qui a été produit et qui a été remis et présenté la semaine dernière d'ailleurs au comité pilotage dans une version un peu plus édulcorée. Pour éviter qu'on aille dans tous les sens, hein, voilà. Bon, maintenant, si je veux insister sur une chose, c'est que il y a, parce que c'est aussi ce qui est un peu dans l'air et ce qui est déjà en cours, pas simplement dans l'air, dans les démarches. Et j'insisterai finalement sur deux choses. Même si j'ai proposé d'insister sur une seule chose, il faut changer le regard sur ces questions. Changer le regard. Si on change le regard, on va changer le vocabulaire, on va changer la façon d'intervenir. Parce que tout ça, ça va avec le regard. Tout est dans le regard. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on ne peut pas faire autrement. Et après, je conclurai. On ne peut pas faire autrement. Il faut travailler avec l'éducation nationale. Il faut trouver les leviers pour travailler avec l'éducation nationale et aborder, prendre à bras le corps la question de la prévention. Il faut travailler, ce qui n'a jamais été le cas, parce que cela a été pour une grande part à leurs initiatives, comme il faut travailler avec tous les personnels qui œuvrent dans le champ de la lecture publique. Parce que pour entretenir ce goût de la lecture, ce rapport à l'écrit, partant de toute cette tarte à la crème qui est que, bien sûr, on est de culture créole, de culture orale, de littérature orale, etc. Donc, a fortiori, et oui, on peut même remonter à l'esclavage, hein, et donc, a fortiori, il faut travailler, a fortiori, avec les personnels de la lecture publique. Bon, maintenant, pour conclure, en fait, nous avons été très chanceux. Et on remercie la chance, mais la chance, il faut la fabriquer. Mais enfin, on a fabriqué modestement la chance en la circonstance, parce que on est là, et ça vaut. Enfin, on est là à la conjonction de plusieurs choses. On est là à la conjonction de l'acte 3 de la décentralisation et des nouvelles missions qui sont confiées aux régions. Surtout sur tout le plan qui concerne la formation. Et donc, on est là également dans un temps qui est celui du renouvellement de la charte. Donc, c'est quand même plutôt également une opportunité intéressante. Et ensuite, avec la mise en place des outils qui accompagnent cet acte 3 de la décentralisation, qu'est le CREFOP et qu'est le service public de l'orientation, et qui aujourd'hui n'a pas forcément beaucoup, sans doute, en tout cas en ce qui concerne le service public de l'orientation, beaucoup de grains à moudre, mais c'est justement, il faut le faire moudre, quoi, ce grain. Merci.
Merci Raoul. Vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Mondan et Monsieur Ramchetti? Vas-y.